BFM. Les grands débats, Nicolas Dose.
L'industrie culturelle face aux défis numériques, est-il encore possible de revenir en arrière, de changer les habitudes de tous ces gens qui sont désormais habitués, trop habitués peut-être au téléchargement gratuit ? Christine Albanel, hier, était à Cannes à l'occasion de l'ouverture du 43e MIDEM. Elle dit « Nous sommes confrontés à un désastre culturel, mais aussi industriel et social ». Déjà, un auditeur réagit. Il s'appelle Erwan, il est à Cannes justement, et il écrit « La cause est entendue, ils ont laissé passer la dématérialisation de la musique, alors pas de regret. Et pas de regret non plus pour les emplois perdus dans l'industrie du charbon ». C'est donc le marché international du disque et de l'édition musicale, comme chaque année à Cannes. Le gouvernement réaffirme sa détermination à lutter contre le piratage en ligne. En ouvrant le 43e MIDEM, Christine Albanel a assuré que le fameux projet de loi création et internet sera adopté au plus tard fin mars. Je rappelle que ce texte a déjà été voté à la quasi-unanimité par le Sénat. Alors on parle toujours de la musique en ligne, mais l'essor du piratage fait une autre victime de taille, c'est l'industrie du cinéma. Selon l'ALPA, l'association de lutte contre le piratage audiovisuel, quelques 470 000 téléchargements illégaux de films sont effectués en France chaque jour, c'est-à-dire autant que les entrées en salle de cinéma. Selon une étude des cabinets de conseil Terra Consultant et Equency & Co, la copie illégale des biens numérisés a fait perdre 1 milliard 200 millions d'euros aux industries culturelles l'an dernier en 2007, et ce manque à gagner aurait détruit 5000 emplois directs l'an dernier, et deux fois plus si on inclut les emplois indirects. Alors la fiabilité de ces chiffres dont on avait déjà parlé a été très critiquée, parce que beaucoup estiment qu'ils sont en dessous de la réalité. Ils donnent tout de même une idée de l'ampleur du problème. Nous sommes avec Nicolas Sédoux, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes président de Gaumont, président de l'association de lutte contre la piraterie audiovisuelle, l'ALPA. Samer Goumier, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes cofondateur de musicclassics.fr. Alors un mot sur musicclassics.fr.
Eh bien,
faites-vous ?
Musicclassics.fr est un nouveau site internet qui procède d'une nouvelle vision de la musique avec une vision très culturelle et artistique de la musique. On vend de la musique classique.
De la musique classique
dématérialisée. En l'accompagnant d'une très forte valeur ajoutée pour le consommateur.
La forte valeur ajoutée en vendant de la musique classique, c'est-à-dire quoi?
C'est faire découvrir aux consommateurs les belles interprétations. D'accord. Des œuvres et mettre ces interprétations en valeur.
Très concrètement, Samer Goumier, c'est de la vente, c'est du streaming, c'est-à-dire de la lecture en ligne, ou alors on télécharge?
C'est deux choses, à la fois du streaming et du téléchargement.
Voilà. Et il y a des DRM, donc des protections anti-piratage.
Pour le moment, il y a des DRM qui nous sont imposés par les maisons de disques, mais Dieu merci, cette contrainte va bientôt se lever. Ce n'est pas encore le cas.
iTunes avec Apple a donné le coup d'envoi de la fin des DRM, là en déclarant récemment que c'était terminé. Quoi.
Ouais. Bien sûr, j'ai aussi entendu cela et nous allons aussi pouvoir le faire dans quelques semaines.
Jérémy Zimmermann, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes cofondateur de l'initiative La Quadrature du Net. Rappelez aux auditeurs ce qu'est La Quadrature du Net.
La Quadrature du Net est une initiative citoyenne qui informe sur des projets de loi dont nous considérons qu'ils sont dangereux pour les libertés individuelles dans l'environnement numérique.
Quand on parle du projet de loi création et internet, vous considérez qu'il est dangereux ?
Il en fait partie, oui. Nous pensons qu'en plus d'être techniquement et économiquement inefficace, en plus d'être inapplicable, ce texte est une mauvaise réponse à un faux problème.
Voilà. Ça en fait des erreurs, dites donc. Hein. Pour avoir fait plancher une commission olivienne pendant des mois, en avoir fait un accord de l'Élysée. Il n'y a pas beaucoup d'accords qui s'appellent accord de l'Élysée. Signé par les 40 acteurs, les FAI et compagnie, et vous arrivez à un faux problème avec une mauvaise loi.
Alors déjà, il est intéressant de voir la nature des acteurs qui ont signé, de voir ceux qui ont fusionné depuis, ceux qui se sont retirés.
Il y avait tout le monde.
Maintenant, si vous regardez les 35 ou 34 signataires restants, 90 ou 95% sont des représentants des industries. Industrie du divertissement. Mais au-delà de ces accords et de cette loi, nous pensons que ce qui est énoncé au sujet du soi-disant piratage, du téléchargement sans autorisation, est complètement fantaisiste, que les chiffres qui sont annoncés, comme cette étude que vous venez d'évoquer...
Donc celle de Terra Consultant et Equency & Co. Voilà, j'ai dit d'ailleurs qu'il y a eu grosse polémique sur ces chiffres. Hein.
Voilà.
Bon, les professionnels du cinéma m'ont dit que c'est beaucoup plus.
60% des chiffres utilisés dans cette étude proviennent des syndicats et des représentants des industries culturelles. Donc parler des indépendante là est un petit peu.
Allez, vous allez quand même pas me dire, et je vais faire réagir Nicolas Sédoux et Samer Goumier dans un instant, que le piratage en ligne n'est pas une réalité. Ça n'a pas fait baisser les ventes de disques.
Je vais vous dire que les échanges d'œuvres immatérielles entre particuliers sont évidemment une réalité, mais que ce postulat qui est que téléchargement égale perte de vente égal préjudice économique pour les industries, et lui complètement fantaisiste. Et qu'il y a de très nombreuses études qui prouvent le contraire.
Alors,
des études financées par le gouvernement canadien, notamment, qui montrent que les utilisateurs qui téléchargent le plus sont aussi ceux qui achètent le plus. D'autres études un petit peu plus indépendantes que celles de l'industrie.
C'est ce que relevait aussi l'étude de Terra Consultant. Celui qui va télécharger n'est pas forcément quelqu'un qui n'achètera jamais.
Voilà, et donc assimiler le téléchargement à des pertes, C'est une espèce de méthode couée, espèce d'aveuglement.
La vente de CD a baissé de 60% depuis 2008, c'est déjà passé quelque chose.
Il y a justement nombreux paramètres qui sont à l'origine de ces baisses de vente qui ne sont pas le téléchargement. Et tant qu'on ne prendra pas ces paramètres-là en compte, on aura du mal à régler le problème de la crise du disque.
Un ou deux paramètres prioritaires autres que le téléchargement?
L'obsolescence du support CD, par exemple.
L'obsolescence du support CD.
C'est-à-dire que le CD depuis 20 ans est à peu près au même prix, n'a pas baissé, toujours ces 72 minutes de musique sur une galette de plastique, alors que pour le même prix, on peut avoir des heures de musique au format MP3 sur des cartes de mémoire. Le fait que l'œuvre musicale s'est énormément appauvrie, que les choix artistiques des maisons de disques s'est concentré sur des Star Academy et des choses comme ça.
C'est donc d'abord le support et ensuite l'offre, le contenu.
Aussi, la baisse du pouvoir d'achat, par exemple, le fait que les postes de dépenses en matière de loisirs des Français se sont déplacés sur d'autres supports comme le jeu vidéo, comme le DVD, comme la téléphonie mobile qui n'existait pas il y a 10 ans.
Aussi, hein. Nicolas Sédoux, bon, évidemment, vous représentez le monde du cinéma. Est-ce que vous recevez les arguments de Jérémy Zimmermann?
Nous ne connaissons pas. Je crois qu'il faut toujours se méfier quand on commence par dire que, sous prétexte que la température est bonne, il faut casser le thermomètre. En tout cas, en ce qui concerne les statistiques du cinéma, elles sont pratiquées dans le cadre d'un protocole approuvé par la Commission nationale informatique et liberté. Personne ne met en doute ces chiffres. Ils existent depuis maintenant 14 mois et nous sommes sur le chiffre que vous avez dit, aux alentours de 450 000 téléchargements illicites quotidiens.
De films
récents. C'est le premier élément. Le second élément, c'est que les dépenses culturelles globales des Français n'ont pas baissé, qu'ils les arbitrent légèrement différemment est une chose, et que aucun site légal payant de musique ne peut se mettre en place si vous avez dans les meilleures conditions, puisque la différence avec le numérique, c'est qu'on en parlera. Et donc je pense que ce projet de loi, qui a été voté à l'unanimité, par le Sénat, il y a le groupe communiste qui s'est abstenu, et donc tous les partis politiques ont pensé que c'était un texte tout à fait balancé.
Alors on va reparler de ce texte très rapidement parce qu'on doit marquer une pause assez vite là, Samir Goumier. Ce que disait Jérémy Zimmermann, qui estime qu'on fait porter aux internautes pirates un chapeau un peu trop grand pour eux.
Eh bien, je pense que c'est ce phénomène de société qu'est le piratage est issu de deux éléments. Un premier élément est le fait que les consommateurs de plus en plus prennent conscience du fait, depuis 10 ans, qu'ils ont commencé à manipuler cela, que les fichiers numériques de musique sont plus faciles à manipuler. On peut les emporter partout et ils apportent véritablement une forte valeur ajoutée par rapport au support physique. Alors face à cela et face à la montée de ce phénomène qui a percolé depuis la génération qui est née avec l'Internet jusqu'au plus senior de nos baby boomers, les éditeurs ont réagi avec la main et le pied sur le frein. C'est-à-dire qu'ils ont imposé des verrous à ces fichiers qui en ont rendu l'utilisation extrêmement complexe et entravant la liberté du consommateur.
Donc une mauvaise vision de départ, hein, et qui effectivement nous a conduit à la situation que nous connaissons. On doit marquer une pause, vous continuerez dans un instant donc sur la réalité effectivement ou pas du piratage en ligne de fichiers musicaux ou alors de vidéos et d'images. À tout de suite.
Les grands débats, Nicolas Dose sur BFM.
L'industrie culturelle et le défi numérique avec Nicolas Sédoux, le président de Gaumont et de l'ALPA, l'association de lutte contre la piraterie audiovisuelle. Samir Goumier, le cofondateur de musiqueclassiques.fr, donc c'est un site dédié à la musique classique légale, on est bien d'accord. Jérémy Zimmermann, qui est cofondateur de la Quadrature du Net. Il a pris la parole en début d'émission pour nous expliquer un peu quel est le credo de la Quadrature du Net. Alors Samir Goumier, si on vous dit... Les difficultés qu'on rencontre aujourd'hui l'industrie culturelle, c'est pas vraiment forcément uniquement lié au piratage, il y a des quantités d'autres problèmes. Vous êtes
d'accord ? Je pense que c'est la conjonction des deux phénomènes. Un manque d'anticipation des éditeurs face à une mutation du marché, un manque de réaction quand cette mutation de marché est devenue, s'est confirmée dans les chiffres, et donc le principe de Schumpeter s'est mis en place, destruction constructive, sauf qu'on a assisté à la phase de destruction, on attend la construction. Heureusement, maintenant, les éditeurs ont compris qu'il fallait déverrouiller les fichiers. Et on va assister justement à cette deuxième phase.
La grande erreur au départ a été de verrouiller les fichiers.
Exactement.
C'est ça.
Exactement. Il fallait accompagner ce phénomène de masse plutôt que résister à ce phénomène.
Alors, il y a cette loi création et Internet qui a donc été votée à l'unanimité, ou la quasi-unanimité, nous rappelait Nicolas Sédoux. Les communistes, évidemment, sont abstenus au Sénat. Selon, il faut reconnaître que le texte est passé, on va dire, avec quasi 100%. Ce sera à l'Assemblée nationale sous peu, au plus tard en mars. On l'espère en février. Christine Albanel, qui ouvrait hier le 43e MIDEM de Cannes. Jérémy Zimmermann, quelques questions toutes bêtes sur cette loi. Bon, vous connaissez le principe. Vous recevez d'abord une alerte mail. Si vous êtes un peu, si vous avez tendance à pirater, illégalement, c'est un pléonasme. Si vous avez tendance à pirater des fichiers culturels, on vous envoie une alerte mail. Puis, il y aura après un courrier avec accusé de réception. Et puis, éventuellement, la coupure de la connexion Internet. Alors, moi, je me dis, qu'est-ce qui se passe pour un internaute qui est chez Neuf ou chez Free, mais qui n'utilise pas sa boîte mail Neuf ou sa boîte mail Free, qui utilise une boîte Yahoo et qui n'ouvre jamais la boîte mail de son FAI, de son fournisseur d'accès? Comment va-t-il être au courant qu'il a reçu une alerte mail? Jérémy Zimmermann.
Alors, si vous le voulez bien, avant de revenir sur l'inefficacité chronique de cette loi et les divers dangers qu'elle représente, j'aimerais réagir sur quelques faits qui ont été énoncés. Monsieur Sédoux a fait la démonstration de ce que j'avançais en quelque sorte, en expliquant que le téléchargement n'a jamais été aussi important qu'il l'est actuellement. L'année 2008 a été une année record pour les entrées en salle de cinéma, avec notamment Bienvenue chez les Ch'tis. Le mois de mars a été un mois de mars record. Le mois de novembre a aussi battu des records. Les ventes de DVD de Bienvenue chez les Ch'tis ont explosé. Et lorsqu'on nous dit que les ventes de DVD chutent...
Oui, et le piratage de Bienvenue chez les Ch'tis, il se porte bien aussi.
Et voilà. Bon. Et donc, Christine Albanel, en ouvrant les débats au Sénat, a dit « C'est une catastrophe. Bienvenue chez les Ch'tis s'est fait télécharger je ne sais combien de millions de fois. Ben, » Résultat, quand il est sorti en DVD, il s'est vendu à fond. Et donc, moi, je suis tout à fait d'accord à ce qu'annonçait notre précédente...
Samer Roumi.
Monsieur Gourmier, voilà. À savoir que les industries ne se sont pas adaptées au marché. Là, on va essayer en quelque sorte de créer une loi qui va essayer de réparer le marché, d'ajuster le marché, ce qui est un petit peu contraire à la loi de l'offre et de la demande. Mais on va tenter de changer le marché en essayant de faire perdurer des modèles économiques qui sont ceux de la vente de fichiers sans réelle valeur ajoutée. Alors que lorsque les industriels fournissent des services à valeur ajoutée ou des produits à valeur ajoutée, les gens les achètent. Et dire qu'un fichier numérique est le strict équivalent d'un DVD ou d'une entrée en salle de cinéma ou d'un CD qui peut contenir un bouquin de je ne sais combien de pages avec des paroles, des illustrations, etc. Là encore, on est dans le mensonge. Les objets physiques ont une valeur ajoutée. Une expérience en salle de cinéma collective a une valeur ajoutée par rapport à un fichier DivX de basse qualité. Et tant que l'industrie offrira des produits et des services de qualité, il n'y aura pas de problème.
Alors, Nicolas Sédoux, et puis on évoquera peut-être les aspects un peu pratiques et techniques de la loi. Allez-y, Nicolas Sédoux, sur ce qu'il disait a priori concernant les entrées au cinéma. Bienvenue chez les
Ch'tis. Je crois d'abord que nous sommes entre gens de bonne compagnie, que le mot mensonge n'est pas acceptable. Bien. On peut avoir des opinions différentes, on ne peut pas traiter son interlocuteur qu'on ne connaît pas de menteur. Ce que j'ai dit, c'est des chiffres, je vous dis, à travers les protocoles de la CNIL. Bon. En ce qui concerne Bienvenue chez les Ch'tis, c'est malheureusement une hirondelle ne fait pas le printemps. Bon. C'est un film dont les Françaises et les Français se sont emparés, ceux qui l'ont vu au cinéma et le regardons à la télévision et acheter des DVD. Donc on ne peut pas se focaliser sur un seul film. Et je constate simplement que si ce film avait été diffusé encore plus largement de façon illicite, et je voudrais rappeler que simplement on est en train de parler d'une loi qui adoucit les sanctions qui existent aujourd'hui. Aujourd'hui, nous sommes dans le délit de contrefaçon qui est simplement punissable de 300 000 euros et 3 ans de prison.
Jusqu'à.
Non, non, mais...
Après, c'est le juge qui applique...
Non, mais nous sommes d'accord. Et on est en train de dire que quelqu'un qui utilise mal son abonnement à Internet, de la même façon que si vous utilisez mal votre abonnement à EDF, vous n'avez pas le droit de brancher sur votre abonnement à EDF le studio de votre voisin ou votre voisine, aussi sympathique soit-il. Vous n'avez pas le droit de télécharger des œuvres de l'esprit qui appartiennent à autrui. Bon. Et vous nous dites inefficace, je vous ai dit tout à l'heure, écoutez, ça c'est notre pari. Nous pensons que c'est efficace. Enfin, dernier point, c'est pas parce qu'un modèle économique, et je pense qu'il faut faire une distinction entre le cinéma et la musique, un modèle économique a été mal géré par des acteurs qu'on a le droit pour autant de s'approprier ce qu'ils produisent. Ayant dit cela, faites-nous le crédit que donc nous pensons que le mécanisme, simplement parce qu'en Grande-Bretagne ou aux États-Unis il fonctionne, peut être efficace et qu'il va de soi qu'une offre légale payante, soit par la publicité, donc payée par la publicité, soit payée par celui qui regarde, ne peut exister que si l'offre illicite a été sensiblement réduite. Voilà. Bon. Alors, d'abord, pas de mots agressifs qui sont tout à fait inutiles. Personne ne ment autour de cette table et personne n'a l'intention de mentir. Simplement, on a le droit de, voilà. Les Bretons, quand il pleut un peu, ils disent qu'il fait très beau. Les gens du Midi pensent qu'il fait très mauvais. Donc laissez-nous la différence d'opinion, c'est le propre des biens culturels et des milieux culturels.
Samer Roubier.
En ce qui me concerne, je pense que cette loi, il fallait la faire, parce que le dispositif précédent, comme l'a souligné M. Sédoux, était tout à fait, était pas très crédible, parce qu'il avait un volet de répressif un peu trop déséquilibré. Et en ce sens, il n'était pas du tout adapté au piratage occasionnel des individus, mais plutôt à des opérations de grande échelle.
Donc, il fallait dépénaliser d'une certaine
voilà.
manière
donc,
le
il fallait rentrer dans un dispositif plus simple, plus raisonnable et donc plus équilibré. Par contre, est-ce que c'est la réponse au problème de piratage, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, ça l'est pas, parce que ce projet de loi ne combat pas les causes, il combat les effets.
Bon,
donc
les effets,
oui. Voilà. Et donc maintenant, est-ce que ce projet de loi va sur le plan technique, car vous avez posé une question qui est intéressante, c'est comment va-t-il s'appliquer techniquement? En fait, on donne la charge aux fournisseurs d'accès à Internet de repérer votre adresse internet contrevenante. Alors pour cela, il faut mettre en place des procédés.
De repérer l'adresse qui est utilisée de manière courante par l'internaute.
L'adresse internet, que vous soyez sur Yahoo, que vous soyez sur la messagerie d'Orange, votre adresse internet n'a pas varié. Elle est gérée par votre fournisseur d'accès à Internet.
Il le sait, qu'on a une adresse sur Yahoo, le fournisseur d'accès à Internet.
Donc, il sait repérer une adresse Internet.
D'accord.
Par contre, ce qu'on demande derrière, c'est à ce que le fournisseur d'accès à Internet puisse déterminer si le contenu qui est transporté par ses services est un contenu qui est protégé par copyright, premièrement, et deuxièmement, si la personne qui est à l'origine et la personne qui reçoivent sont détenteurs de droits.
D'accord.
Dessus ou pas.
Bon, le fournisseur d'accès a pour mission finalement de traquer le pirate et de les identifier.
Alors moi je
non.
Il a pour mission d'identifier les contrevenants en vérifiant à la fois que ce contenu est protégé par copyright et deuxièmement que la personne détient ou détient pas la capacité d'en faire usage. Alors, ce que je pense, c'est que la mise en place va être extrêmement complexe.
Parce qu'il y a la Haute Autorité qui est au-dessus, la Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits, l'ADOPI, qui donc recevra ces informations des FAI et aura pour mission. Non, alors décidément, j'ai rien compris, Nicolas Sédoux. Bon, alors on va marquer une pause parce que voilà, je croyais avoir compris, puis je réalise finalement que c'est pas si clair que ça. Alors, si ça n'est pas pour moi, je pense que ça n'est pas forcément pour tout le monde. La suite de ce débat dans un instant.
BFM, les grands débats, Nicolas Dose.
Christine Albanel, hier à Cannes, à l'ouverture du 43e MIDEM, déclare « Si la loi création et Internet pouvait faire baisser ne serait-ce que de moitié le piratage de musique et de vidéos, on serait très heureux ». Pascal Nègre, patron d'Universal Music France, affirme que dans les pays où ce type de texte est appliqué, un tiers des gens arrêtent de pirater de la musique. Lui, évidemment, parle pour la musique. Nicolas Sédoux est avec nous, président de Gaumont. Il est président de l'association de lutte contre la piraterie audiovisuelle, l'ALPA. Samer Roumier, le cofondateur de musiqueclassics.fr. Et Jérémy Zimmermann, cofondateur de la Quadrature du Net. Alors, Nicolas Sédoux, visiblement, j'ai pas tellement compris comment fonctionne, j'ai envie de dire, le protocole de cette loi création à Internet. On envoie un mail au pirate, puis à peu de temps après, il recevra un courrier avec accusé de réception, c'est-à-dire dans les 6 mois. Et puis, s'il y a une récidive dans l'année, suivant l'envoi du deuxième avertissement, l'accès à Internet pourra être supprimé entre 3 mois et 1 an. Et il y a pour ça la création d'une haute autorité pour la diffusion des œuvres et de la protection des droits qui s'appelle l'ADOPI. Alors, qui fait quoi? Les FAI, les ayants droit, effectivement. C'est là-dessus que vous vouliez revenir, Nicolas Sédoux.
Non, vous avez très bien compris sur... donc, on parle du mécanisme prévu par la loi. Les sociétés représentant la musique et le cinéma, SACEM, SCPP et ALPA, repèrent les adresses IP de celles et ceux qui ont téléchargé de façon illicite des fichiers protégés. Je rappelle que l'adresse IP, c'est comme la plaque d'immatriculation d'un véhicule, on ne sait pas à qui ça appartient.
Comment on les repère? Vous dites qu'ils les repèrent, mais il faut du monde.
C'est repéré à travers des protocoles qui, évidemment, ne sont pas au point, puisqu'ils doivent être validés par la Commission nationale informatique et liberté.
La CNIL, donc.
Et
oui.
qu'il s'agit simplement de repérer non pas les individus, mais les œuvres téléchargées.
D'accord.
C'est très simple. Voilà.
Bon.
Et c'est exactement ce qui donne naissance à nos statistiques. À partir de là, ces adresses IP sont données à une haute autorité indépendante.
L'ADOPI.
Oui, mais je rappelle que son nom, il n'est pas encore très connu. Si la loi est votée, il sera peut-être un peu plus connu. Ce sont simplement ce qu'on appelle en France des hauts magistrats indépendants, Cour des comptes, Cour de cassation, Conseil d'État. Donc, une autorité totalement indépendante. Cette autorité, elle reçoit donc l'adresse IP. Et elle transmet l'adresse IP au fournisseur d'accès. Seul le fournisseur d'accès connaît le nom de l'abonné qui est derrière cette adresse.
D'accord.
Le fournisseur d'accès, donc sur injonction de l'ADOPI, envoie à l'abonné le mail lui disant tel jour à telle heure, vous avez téléchargé tel fichier, nous vous rappelons, blablabla. Soit il n'y a pas d'autre constatation dans un certain délai, soit il y a une autre constatation dans un certain délai, c'est le Parlement qui arrête les délais, et à ce moment-là...
C'est 6 mois pour l'instant, a priori, hein, bon.
Et à ce moment-là, l'ADOPI demande le nom de la personne et envoie elle-même la lettre recommandée avec accusé de réception.
C'est donc l'ADOPI qui va envoyer le document papier.
C'est l'ADOPI qui envoie le document papier.
Attention, deuxième avertissement,
si vous continuez.
Ouais.
Donc, il y a une pédagogie. Si vous continuez, vous risquez la suspension de votre abonnement.
D'accord. Voilà. Et comment fait-on quand on doit arriver jusqu'à la sanction, la suspension de l'abonnement pour quelqu'un qui, à la fois, a son Internet, mais son téléphone et sa télévision dans son triple play?
Écoutez,
quand on doit couper Internet, est-ce qu'on peut couper le téléphone et la télévision?
Je vais vous dire, les sénateurs ont regardé ça avec beaucoup de précision. C'est pour ça que c'est un projet. Quand un projet est voté à l'unanimité, moins un groupe qui s'abstient, on peut penser que tout ce qui a trait aux libertés, à la protection, qu'on ne vous coupe pas le téléphone au moment où vous couperez Internet, ça a été vérifié et ça peut être fait. Il y a peut-être quelques cas où ça serait difficile, mais pour la très grande majorité des cas, et c'est ce qu'a dit Christine Albanel, ça ne pose strictement aucun problème.
Alors, Samir Roumier, si vous avez quelque chose donc à ajouter sur l'aspect pratique de cette loi qui est quand même assez impressionnant.
Moi, je pense qu'il y a un raccourci qui est fait entre le fait de dire il y a, je pense que quelque chose est contrevenant à la loi, au droit de propriété, et le fait de pouvoir trouver l'adresse internet. Je dois faire remarquer que c'est pas quelque chose qui est trivial, que des solutions technologiques aujourd'hui éprouvées, ça n'existe pas. Donc ça va mettre un tout petit peu de temps à se mettre en place. Ce n'est pas quelque chose qui va être instantanément en place. Par contre, le volet pédagogique de la loi, ça j'y tiens, c'est très important. Le fait de pouvoir communiquer sur le fait que pirater, c'est pas bien. Ça détruit l'économie, ça a pour objet, ça a pour conséquence de détruire l'économie du disque, c'est important, mais comme je le disais tout à l'heure, il faut en parallèle libérer cette économie
donc,
des entraves.
Il faut lever les verrous notamment, hein, et notamment les verrous sur les disques vierges par exemple.
Je pense que c'est quelque chose qui a maintenant relativement disparu dans l'industrie de la musique.
Sur la mise en place de cette loi, Jérémy Zimmermann pour la Quadrature du Net, on a eu l'exposé de Jérôme de Nicolas Sédou. On a très bien compris ce qu'il voulait nous dire. Effectivement, voilà comment ça va fonctionner. Votre avis?
Il faudra
du temps quand même, dit Samir Roumier, mais l'aspect pédagogique est engagé.
Il y a de nombreuses failles dans tout ce dispositif. D'abord, quand on disait tout à l'heure que les sanctions allaient jusqu'à 300 000 euros d'amende et 3 ans de prison, là encore, il y a quelques contre-vérités, quelques légères omissions, parce que quand un juge a à se prononcer sur un cas de contrefaçon, comme dans n'importe quel délit, il doit établir un préjudice. Et c'est en fonction du préjudice qu'il accordera une peine qui peut aller jusqu'à ces sanctions. Et en général, lorsqu'il s'agissait de téléchargement, les juges étaient très partagés sur la notion même de préjudice et sur la capacité des industriels à démontrer que un téléchargement, c'était 1 euro de perdu. Et donc, c'est pour cela que les industriels souhaitent aujourd'hui contourner l'autorité judiciaire en mettant en place ce dispositif, que nous estimons extrêmement dangereux, et cela à plusieurs égards. Tout d'abord, en amont, comme l'a très bien expliqué Monsieur Sédou, il y a donc la traque des internautes pirates, entre gros guillemets. Il s'agit là pour des acteurs privés de constater des infractions, donc de constater des délits de contrefaçon, et des acteurs privés qui constatent des infractions, ça ressemble très fortement à des missions de police privées. Donc déjà, on peut trouver ça assez inquiétant. La collecte d'adresses IP, il s'agit pas de plaques d'immatriculation des adresses IP. Pour quiconque connaît un petit peu la structure et le fonctionnement du réseau, il saura que de l'association d'adresses IP avec des données consultées sur Internet et des données de connexion relève de données personnelles. D'ailleurs, le DPS, le contrôleur européen pour la protection des données personnelles, l'équivalent de la CNIL européenne, le dit lui-même, les adresses IP sont la plupart du temps des données personnelles et parfois ne le sont pas. Donc là, on a des acteurs privés qui vont collecter des données personnelles. On ne sait pas dans quelles conditions, on n'a aucun moyen de contrôle.
C'est la DOPI, si j'ai bien compris.
On parle de l'ALPA, de la CPP, de la SACEM, qui sont des acteurs privés eux, ils vont collecter des fichiers d'adresses IP qui vont correspondre à des infractions qu'ils auront relevées.
Je peux comprendre que l'adresse IP serait envoyée par les FAI à la DOPI.
Oui, mais eux, ils vont les collecter pour les envoyer à la DOPI. Et donc, il y a une précédente modification de la loi informatique et liberté qui les avait autorisés à constituer ce genre de fichiers d'infraction. Et le Conseil constitutionnel avait précisé, c'est acceptable uniquement parce que l'identification des internautes se fera dans le cadre d'une procédure judiciaire. Et bien là, c'est plus le cas. Parce que ça se fait plus dans le cadre d'une procédure judiciaire, mais dans le cadre d'une autorité administrative. Alors, indépendante, on pourrait argumenter là-dessus pendant longtemps parce qu'il s'agit de magistrats qui sont évidemment nommés. Donc l'indépendance de magistrats nommés est évidemment différente de celle d'un parquet ou d'un juge d'instruction qui existe encore.
Ils sont 12, ils vont pas se prononcer sur tous les dossiers, et voilà, il va y avoir une forme d'automatisation du système, parce que Dieu sait si les pirates sont nombreux.
Ce sera automatisé, et surtout par rapport à l'autorité judiciaire, où en tout point sont respectées la procédure contradictoire, les droits de la défense, il y a à tout moment moyen de passer vers une juridiction supérieure, une cour d'appel, puis une cour de cassation, il n'y a rien de tout ça avec la DOPI. Et donc, cette autorité administrative, elle va envoyer des mails, vous l'avez dit. Donc les emails disant oui, vous avez téléchargé tel jour à telle heure, ils pourront très bien passer à l'AS. Le gamin dans la famille qui recevra le truc pourra très bien l'effacer et le truc partira aux oubliettes. Ensuite, il y a effectivement un courrier recommandé qui va arriver, qui va dire...
C'est pour être sûr que les parents soient au courant, parce qu'effectivement, on pense qu'il y a beaucoup de mineurs qui profitent de la connexion parentale.
Le courrier en question va même pas indiquer ce qu'on vous reproche. Il va pas dire, vous avez téléchargé Bienvenue chez les Ch'tis, ou vous avez téléchargé Britney Spears. Non, les sénateurs ont refusé ça. Il va pas indiquer le contenu de l'œuvre.
Qu'est-ce qu'il indique? Vous
êtes un pirate. Bon, donc, si vous avez reçu 100 invités chez vous et que vous leur avez prêté votre connexion Internet dans les précédents mois, ou que vous partagez avec vos voisins qui ont des problèmes avec leur connexion, vous pouvez très bien vous dire, écoutez, moi, je suis pas au courant, je vais pas pirater, c'est pas moi. Et vous n'avez moyen de contester cette procédure que lorsque la sanction a été rendue. Et la sanction, c'est la déconnexion d'accès Internet. Donc,
on a très peu de temps avant de marquer une dernière pause. Nicolas Sédou, est-ce que vous êtes d'accord avec les critiques émises par Jérémy Zimmermann?
Écoutez, je crois qu'il faut faire une fois, quand même, de temps en temps, confiance un peu aux parlementaires. Ils n'ont pas voté cette loi qui est caricaturée telle que vous la présentez.
Ils n'ont pas encore voté.
J'ai parlé des sénateurs.
Elle est votée aussi.
Les sénateurs ont voté cette loi.
Alors on marque une pause et vous continuerez sur la question de la caricature du Parlement, car la pendule m'ordonne de m'arrêter maintenant.
Les grands débats, Nicolas Dose sur BFM.
Dernier quart d'heure consacré donc à l'industrie culturelle face aux défis du numérique. Nicolas Sédou, président de Gaumont et de l'ALPA, vous évoquiez juste avant ce travail effectué par les parlementaires en répondant aux critiques de Jérémy Zimmermann de la Quadrature du Net. Faisons confiance aux parlementaires, vous le disiez, Nicolas Sédou.
Je crois que la représentation nationale, elle nous représente tous. Bon, que les sénateurs ne sont pas élus dans les mêmes conditions que les députés, et M. Zimmermann disait, mais attendons le débat à la Chambre. Il a tout à fait raison. À partir de là, je crois simplement, je dis les choses très simplement, nous ne partageons pas le même point de vue. Je dis simplement que la liberté de chacun, c'est la déclaration des droits de l'homme, s'arrête ou commence celle de l'autre. Je voudrais qu'on comprenne un peu que celles et ceux qui produisent des airs de musique et des films ont besoin simplement pour continuer à produire et que pour que les internautes de demain aient quelque chose à télécharger, que ces œuvres de l'esprit ont besoin d'être justement rémunérées. Et la situation dans laquelle nous sommes, elle n'est pas due aux internautes, elle est due aux fournisseurs d'accès qui ont fait croire aux internautes qu'en s'abonnant, ils avaient le droit de télécharger illicitement, ça on le disait pas, gratuitement les œuvres de l'esprit.
En s'abonnant au haut débit, c'est ça que vous voulez dire ?
Mais évidemment la promotion qui a été faite pour le haut débit, si vous vous souvenez, c'était dans quelles conditions formidables d'écoute ou de vision on pouvait télécharger des aires de musique et des films. Et je rappelle simplement qu'il se trouve que c'est un fournisseur du haut débit, M. Steve Case, président d'AOL, qui avait pris le contrôle de Warner. Warner a mis quelque temps à le mettre dehors, et en fait, je voudrais simplement que nous partagions au moins un point de vue, tous. Ce qui est important, c'est pas le tuyau, c'est ce qu'il y a dans le tuyau. Et ce qu'il y a dans le tuyau, qui est donc une œuvre, hein, soyons tout à fait précis, face à un tuyau, parce que quel que soit le mode satellite, etc., ces œuvres, elles ont besoin d'être rémunérées dans l'économie dans laquelle nous sommes. Alors, elles peuvent être rémunérées soit par la publicité, soit par le paiement à l'acte.
Donc il faut du légal gratuit ou payant, mais du légal.
Il faut du légal, et seul ce légal permet à long terme d'avoir une création. Et sinon, bravo Internet, et surtout ne faisons pas des procès d'intention sur le fait que les hommes et les femmes de culture qui ont toujours défendu les libertés quelles qu'ils soient, tout d'un coup voudraient priver les Français ou d'autres de leurs droits naturels et de leurs libertés. Ce n'est pas un droit naturel que de prendre ce qu'a créé quelqu'un d'autre. Voilà, c'est aussi simple que ça, et je pense que nous avons un projet. Alors, aucun projet n'est parfait, le sujet est complexe, puisqu'effectivement nous allons faire face à un téléchargement de masse, et il faut que demain, les internautes puissent télécharger légalement toutes les œuvres de l'esprit qu'ils souhaitent, et que les ayants droit puissent suivre ce qui arrive aux œuvres qui sont créées.
Jérémy Zimmermann, est-ce qu'on est d'accord sur ce postulat qui voudrait qu'effectivement, si l'offre n'est pas rémunérée, il n'y aura plus d'offre ? Et donc, un jour, il n'y aura plus rien à télécharger, légalement ou illégalement.
Il y a très nombreuses façons de rémunérer la création. Toutes ne passent pas par la vente unitaire de fichiers. Il y a par exemple le groupe Nine Inch Nails qui vient d'arriver au premier aux ventes de disques sur Amazon.com et qui par ailleurs donnait son œuvre, qui a été téléchargée gratuitement des millions de fois, ce qui prouve bien qu'un téléchargement gratuit ne veut pas dire une perte de téléchargement payant. Il y a également nombreux moyens mutualisés de financer la création. Le cinéma d'ailleurs est spécialiste dans le domaine, avec grand nombre de financements publics qui vont financer les œuvres en amont de la production. L'industrie musicale est aussi familière de ça. Il y a la rémunération pour copie privée, avec une part très importante des ventes des DVD vierges et des disques durs, des cartouches de mémoire, des clés USB qui sont redistribuées pour financer la création. Et nous pensons que la déconnexion d'Internet n'est jamais une solution pour améliorer le financement de la création.
Il faut réinventer la manière de vendre.
Ce livre écrit par Philippe Aigrin qui s'appelle Internet et création, qui envisage justement d'autres méthodes de rémunération de la création, qui part du principe qu'on autorise les échanges entre particuliers. Je vais l'offrir ici à Monsieur Sédou qui.
Merci beaucoup.
Peut-être
merci.
Le trouvera intéressant. Ce que j'aimerais dire.
Très vite.
Les conséquences qui vont être celles d'un projet aussi violent, avec des sanctions aussi violentes que la déconnexion de l'accès à Internet, seront dévastatrices pour l'économie numérique dans son ensemble, que les moyens de contourner la loi existent déjà, que les internautes qui échangent le feront dans la clandestinité, en utilisant des réseaux anonymisés, en utilisant des réseaux chiffrés, qu'il n'y aura plus moyen de mesurer qui fait quoi, il n'y aura plus moyen de mesurer qui apprécie quelles œuvres, qui aurait été un très bon moyen pour les rémunérer. Et de là, c'est des sous qui partiront dans d'autres pays que la France et l'Europe pour acheter des services d'anonymat.
En un mot, Samer Roumier, quelle est la priorité les priorités que vous attendez concernant le marché de la musique qui est le vôtre ?
Alors tout d'abord,
baisse des prix et les DRM, voilà.
Je voudrais dire, bon, les DRM, j'en ai parlé abondamment. Deuxièmement, je pense pas qu'on puisse passer d'un modèle à un autre comme ça du jour au lendemain. Donc, s'il s'agit d'expérimenter, faut expérimenter avec précaution. Or, je trouve qu'en ce moment, les mêmes éditeurs qui avaient été extrêmement farouches au changement technologique sont en train de faire exploser des modèles gratuits sans valider au départ que ces modèles ont une chance de perdurer dans le temps. J'en veux pour preuve la possibilité d'écoute illimitée en ligne en qualité hi-fi avec marginalement un financement par la pub, le fait d'expérimenter du téléchargement illimité par l'intermédiaire de vendeurs de téléphones, c'est de la crédibilité intéressante,
mais donc
ça risque de tuer la notion de prix, de prix juste que doit payer un consommateur pour accéder à une œuvre de l'esprit. Ouais. Et donc, sous prétexte de traiter la problématique de 18% de personnes qui piratent, on risque de pervertir l'ensemble du système.
Ouais,
donc il faut
problème.
Avancer de manière très prudente et surtout de protéger les diffuseurs qui, comme nous, apportent énormément de valeur ajoutée à leur travail, qui investissent en amont pour mettre en valeur les œuvres culturelles et musicales.
Nicolas Sédou, un mot. Alors, je sais qu'effectivement, l'industrie du cinéma demande à ce qu'on réduise la fenêtre de la chronologie des médias, que les DVD sortent plus tôt après la sortie en salle, 4 mois et non pas 6. Faut-il baisser le prix d'entrée des salles de cinéma? C'est une des critiques récurrentes. Mais là, vraiment, en un mot, parce qu'on a terminé, à votre avis, est-ce que 9, 10 euros, c'est trop cher?
D'abord, le prix moyen est inférieur à 6 euros.
Oui, mais la plupart des gens...
La plupart des gens, plus d'accord. De la moitié des Français, payent, puisque le prix moyen est de 6 euros. Donc, oui, ça serait mieux si c'était moins cher, mais tout serait mieux si c'était moins cher. Il faut financer la création. La création, on n'a pas trouvé d'autre moyen de se financer qu'en faisant payer le prix des places, en faisant payer les chaînes payantes, en faisant payer les chaînes généralistes. Et quand Monsieur Zimmermann, d'abord, je crois que nous serions plus d'accord, tous les deux, sur le cinéma que sur la musique, dont le modèle économique n'est pas le même. Et deuxièmement, oui, bien sûr, moins cher, c'est mieux, sauf qu'on ne peut pas faire sortir les gens de chez eux sans leur offrir l'extraordinaire. L'extraordinaire, il est payant, et quand je regarde le prix des concerts de musique, il est très supérieur, ou des matchs de foot, là, nous avons un écran sur lequel on voit le foot, regardez le prix d'un abonnement au foot comparé d'un prix d'un abonnement au cinéma. Simplement, le cinéma est le loisir populaire français le moins cher.
Merci Nicolas Sédou, président de Gaumont et président de l'ALPA, Samer Roumier, le cofondateur de musiqueclassiques.fr, et Jérémy Zimmermann pour la quadrature du net.